Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Le conflit Ukraine-Russie, le retour de la guerre, une discussion avec l'historien lyonnais François Boursier. Le musée des Confluences de Lyon s'enrichit d'une donation d'art chinois du quotidien. Avec Maria Loca, la directrice des collections et des expositions du musée. Calade, le journal. Réhabiliter les milliers de logements vides en France plutôt que d'en construire de nouveaux. L'idée fait son chemin. Problème, il est bien moins coûteux de construire du neuf. De nouveaux pavillons individuels sont construits chaque année. Pour préserver le climat et la biodiversité, des alternatives aux maisons neuves existent. Utiliser les logements vacants ou encore promouvoir les habitats collectifs. Fini le modèle du pavillon avec jardin. Place à l'intensité heureuse. Voici en quelques mots la philosophie défendue par le ministre du Logement, Emmanuel Wargon, dévoilée à l'automne 2021. Si elle prend soin d'éviter le mot « densification », tant il est repoussoir politiquement, il s'agit bien en réalité de mettre plus d'habitations par kilomètre carré, afin d'éviter l'extension infinie des zones urbanisées. Pourtant, dans les villes, où la densification s'est accélérée ces dernières années, des projets de construction sont contestés. Certains habitants n'ont tout simplement pas envie d'avoir de nouveaux voisins. Mais des défenseurs du patrimoine ou encore de collectifs qui veulent préserver des espaces verts en ville peuvent aussi donner de la voix. Les jardins de l'Engrenage, à Dijon par exemple, pourquoi continuer à construire plutôt que d'occuper les logements vides ? Selon l'INSEE, les logements vacants augmentent nettement depuis 2006 à un rythme supérieur à celui de l'ensemble du parc immobilier. Parmi les raisons expliquant la vacance, l'INSEE cite notamment une inadéquation de l'offre avec la demande en matière de taille, localisation, prix. De fait, une partie importante des logements vacants se trouvent dans des communes où les Français ne cherchent pas à habiter. Mais ils peuvent aussi se trouver dans des villes où le marché de l'immobilier est tendu. Les chiffres du ministère de la Transition écologique montrent que certains quartiers de Paris, Marseille ou encore Lille affichent des taux de vacances longue durée supérieurs à 10%. Réhabiliter les logements existants plutôt que d'en construire de nouveaux, cela peut sembler aller de soi, mais pas pour les professionnels de la construction, car aujourd'hui, cela coûte beaucoup moins cher de faire du neuf. Construire un immeuble nécessite 70 fois plus de matériaux et produit 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'une réhabilitation, observe l'urbaniste Sylvain Grisot. Selon lui d'ailleurs, 80% de la ville de 2050 est déjà autour de nous. C'est l'ensemble de cette ville qui doit être adaptée à nos besoins de 2050. En ces temps de pénurie de matériaux, conclut-il, faire avec l'existant pourrait de toute façon devenir une nécessité. Le conflit Ukraine-Russie, le retour de la guerre froide, point d'interrogation. C'est autour de ce thème que nous engageons une discussion avec l'historien lyonnais François Boursier lors de son intervention du Feu du Mois, animateur des conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche, un jeudi de chaque mois. On l'écoute.
Alors, c'est peut-être pas le retour de la guerre froide, mais en tout cas, dans les Balkans, avec cette présence russe à travers la Serbie, on revient à un climat de, pas de guerre, mais...
Bras de fer, j'allais dire.
Partie de bras de fer, mise en tension. On est dans une mise en tension des populations de la région qui ont été durement touchées par la guerre dans les années 1990-2000. Et on a le sentiment que ça pourrait revenir, quoi. C'est ça un peu l'inquiétude. Et en même temps, un peu comme en Ukraine aujourd'hui, on voit la présence de la Russie et l'action de la Russie.
Alors, le conflit ukrainien-russe n'est pas d'aujourd'hui, je crois qu'il date de 8 ans à peu près. Il trouve son origine en septembre 2013, hein, c'est ça?
Oui, c'est en 2013-2014 que le conflit entre l'Ukraine et la Russie se développe. Il se développe parce que les Ukrainiens regardent de plus en plus du côté de l'Ouest, c'est-à-dire du côté de l'Union européenne. Et c'est vrai que les Russes, eux, ont toujours considéré que l'Ukraine faisait partie du monde russe, historiquement, religieusement, donc avec la religion orthodoxe. Kiev a été une première capitale du monde slave avant même Moscou dans l'histoire de la région. Et donc il y a un grand attachement. Et c'est sans doute cette inquiétude de la Russie de voir l'Ukraine partir qui a déclenché cette stratégie russe de Poutine qui est à l'œuvre aujourd'hui.
Et qui a démontré aussi son souhait d'adhérer à l'OTAN. Ça deviendrait, pour Poutine en tous les cas, une organisation concurrente, un peu menaçante en tous les cas sur sa sécurité.
C'est clair que pour Vladimir Poutine, l'OTAN est une menace pour la sécurité de la Russie. Donc toute l'action de Vladimir Poutine consiste à faire en sorte qu'il y ait le moins possible de pays qui puissent adhérer à l'OTAN, et notamment les pays proches, les voisins proches de la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, pour la Russie, ne doivent pas et ne peuvent pas et n'entreront jamais dans l'OTAN. Mais c'est le cas aussi de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine dans les Balkans, où là, pareil, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de tout faire pour que ces pays, non seulement n'aient pas d'accord avec l'OTAN, mais il l'a fait en 2013 avec la Serbie, au moment où commençaient les problèmes avec l'Ukraine. Il signe un accord militaire avec la Serbie. Et la Serbie a une alliance militaire avec la Russie aujourd'hui. C'est donc cette stratégie que mène Poutine qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est dans le collimateur.
Alors, on reviendra effectivement sur l'Europe, mais auparavant, de façon un petit peu plus internationale, est-ce qu'on ne revit pas, ou on vit en tous les cas, une distribution déjà un petit peu du pouvoir entre les États-Unis, la Chine et la Russie ?
Alors, ce qui est clair, c'est que dans cette région du monde, que ce soit l'Est de l'Europe ou le flanc Sud de l'Europe, la Russie et la Chine sont présentes, très présentes, de plus en plus présentes. On sait aujourd'hui que la Chine a investi aux alentours de 10 à 15 milliards de dollars dans les pays des Balkans. Un pays comme le Monténégro, 40% de sa dette est une dette chinoise. C'est entre 15 et 20% de la dette de ces pays qui est chinoise aujourd'hui. Donc ils sont très présents. Et en même temps, très présents dans des entreprises de déstabilisation. Il y a quelques semaines, début janvier, quand les Serbes de Bosnie ont paradé à Banja Luka, les diplomates serbes et les diplomates russes et chinois étaient présents à cette parade militaire qui était une parade nationaliste, identitaire et en même temps séparatiste. Alors, c'est vrai que face à cette présence russe et chinoise, est-ce qu'il y a véritablement un retour des États-Unis ? Il y a une présence, c'est clair. Dernièrement, ils ont envoyé dans les Balkans le représentant de la diplomatie à Washington qui est allé à Sarajevo pour faire le point et manifester la présence américaine. Est-ce que c'est un retour de la confrontation ? Je pense que les Américains, la confrontation, s'ils l'ont, ce sera en Asie avec la Chine. Pas en Europe, à mon sens. Mais aussi parce que les Russes n'ont pas les moyens qu'avait l'URSS de faire la guerre telle qu'ils auraient pu la faire à l'époque de l'URSS. C'est pour ça qu'ils développent ce qu'on appelle des guerres hybrides, des guerres d'influence, des guerres des stratégies de déstabilisation. Sans qu'on sache si un jour ou l'autre, ça ne voudrait pas déraper. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que du côté des Européens, il n'y aura pas la guerre.
C'était François Boursy, conférencier du Fait du Mois, cycle de conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche, un jeudi de chaque mois. Yves Mao de la Quarantonnée a fait don d'une collection de plus de 2000 objets témoins de la vie quotidienne en Chine, principalement de la deuxième moitié du XXe siècle, une collection rassemblée à l'origine par François Dautrenne à partir des années 1960. Les détails avec Myria Lokia, la directrice des collections et des expositions du musée, elle est jointe par téléphone.
Alors, nous avons reçu l'année dernière, en 2021, cette grande collection, près de 2000 objets de l'art chinois du quotidien, une collection qui vient de donateurs privés, Yves Mao de la Quarantonnée, qui l'a acquis, lui, dans un objectif effectivement de créer un autre musée d'abord à Paris avec d'autres personnes, mais qui n'a finalement pas pu avoir lieu. Et il est venu rencontrer le musée pour voir si le musée du Confluence serait intéressé à accueillir cette collection dans nos murs.
Cette collection vient enrichir le musée des collections existantes en référence à l'Asie.
Tout à fait. Le musée du Confluence est issu déjà de musée de Guimet, le musée d'un dépôt des œuvres pontificales missionnaires, parmi lesquelles il y avait déjà beaucoup d'objets asiatiques, de Asie. Et aujourd'hui, nous conservons, avant l'arrivée de cette donation, donc nous conservons déjà plus de 10 000 objets d'Asie dans nos collections. Donc cette collection, principalement sur le XXe siècle, vient compléter effectivement notre collection existante.
Quelle est la particularité de cette nouvelle donation ?
Cet aspect de vie quotidienne, c'est vrai que dans tout domaine de nos collections, nous avons principalement des objets liés à la vie quotidienne, mais également aussi, surtout sur l'Asie, des éléments, des objets liés à l'histoire des religions et des croyances, liés au fait que le musée de Guimet était créé par les religions.
Une collection constituée sur de nombreuses années.
Cette donation est dans une collection en particulier collectée par François Dautrême, qui était le fondateur de la Compagnie française de l'Orient et de la Chine, une entreprise, en fait, un magasin qui vendait des objets de l'Asie et pour lequel donc, il voyageait, il arpentait la Chine dans son entière, de l'ouest en ouest et de nord en sud, pendant 40 ans, donc, pour collecter des objets pour son magasin. Et en même temps, il achetait des pièces pour sa collection personnelle. Donc, la collection que nous avons reçue en donation au Musée des Confluences est issue de cette collection personnelle de François Dautrême.
Qui a démarré, je crois, dans les années 60, hein, pour nous situer un petit peu. Voilà. Quelles sont les pièces ? Est-ce qu'il y a des thématiques plus particulières ?
Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de champs qui sont traités, mais donc les champs de la vie quotidienne, il y a l'artisanat, l'alimentation, l'agriculture, des mobiliers, etc. Et on a, par exemple, effectivement, dans le mobilier, on a une pièce absolument exceptionnelle, une sorte de meuble à pharmacie qui est un élément indispensable pour tous les magasins de pharmacie, nos médecines traditionnelles en Chine. Et donc, ce meuble de pharmacie de près de 2 mètres de haut, réalisé en bois laqué et en papier, contient 80 petits tiroirs sur lesquels sont écrits sur des petits papiers en caractère chinois des noms de différents produits qui étaient conservés dans ces tiroirs. Et dans chaque tiroir, oui, il y avait un ou deux types de médicaments différents. Donc on a cet meuble de pharmacie dans cette collection, mais également des éléments de pharmacopée, des produits qu'on utilisait dans la pharmacopée, comme des champignons, des gousses de fruits, des racines de plantes ou encore des lézards séchés ou des différents insectes comme des millepattes.
Ces objets sont témoins en fait du passé, c'est ça, on peut dire comme ça. Et justement, la Chine a pris son essor économique aujourd'hui.
Oui, principalement, il s'agit des objets qui n'existent plus puisque la société chinoise a évolué comme toutes les autres sociétés et certaines traditions sont disparues. Ces objets d'usage courant ou de fabrication traditionnelle sont fabriqués d'une autre manière aujourd'hui, probablement en plastique ou entre matériaux. Donc, c'est effectivement ces objets que nous conservons donc, sont des témoins aussi de savoir-faire et des traditions. Effectivement, c'est très précieux comme témoignage d'une époque qui est révolue aujourd'hui.
Cette donation va prendre quelle dimension au niveau du musée ?
Alors, aujourd'hui, nous exposons déjà dans la galerie Émile Guimet, donc une galerie qui est dédiée aux donateurs du musée. Il faut savoir que 70% de nos collections sont issues des donations. Donc dans cette galerie, il y a une vitrine sur des donations récentes et sur la question de transmission, parce que souvent ces donateurs sont aussi également des personnes qui souhaitent transmettre leur passion et leur connaissance. Et dans une des vitrines de cette galerie, donc, sont déjà présentés des objets de cette donation. Et bien sûr, comme effectivement, c'est les sujets traités par la donation sont très proches également de nos sujets traités dans les expositions, donc prochainement dans une exposition consacrée aux fleuves, intitulée « Nous les fleuves », on retrouvera également des éléments de cette donation. Plein d'autres expositions qui seront présentées dans les années à venir au musée, il y aura des éléments de cette collection, de même que d'autres musées de France nous ont déjà demandé un prêt des objets de cette donation.
La donation d'une collection d'art chinois du quotidien au Musée des Confluences à Lyon, à ne pas manquer. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.